Chapitre 5. Château d'Ardis. Dîner pour 12 personnes sous l'arbre festonné de Lampion. Venaison en provenance de la forêt, truite de la rivière, bœuf des pâturages situés entre Ardis et la plateforme Fax, vin rouge et vin blanc des vignes d'Ardis, maïs frais, courge, laitue et petits pois du jardin, et caviar faxé de quelque part.
Qui fête-t-on et pour quel vin ?
S'enquit Daeman tandis que les serviteurs s'occupaient des 12 convives assis autour de la longue table.
C'est mon anniversaire, mais ce n'est pas un vin,
répondit Arman, un bel homme aux cheveux bouclés.
Pardon,
fit Daeman. Souriant sans comprendre, il prit un peu de courge et passa le bol à sa voisine.
Arman célèbre le jour de sa naissance,
expliqua Ada, assise en bout de table. En la voyant ainsi vêtue d'une robe de soie beige et noire, Daeman se sentit soudain excité. Il secoua la tête, guère avancé par cette précision. Un anniversaire ne se fêtait pas, ne se remarquait même pas.
« Donc, tu ne fêtes pas un vin ce soir ?»
dit-il à Arman, faisant remarquer au serviteur flottant près de lui que son verre était vide.
« Mais je célèbre le jour de ma naissance, »
répliqua Arman avec un sourire.
« Mon 99e anniversaire. »
Choqué, Daeman se figea, puis parcourut l'assistance du regard, se demandant si c'était là une de ces plaisanteries dont on est friand en province, une plaisanterie de mauvais goût qui plus est. Il n'y a pas vraiment de quoi rire quand on atteint sa 99e année. Il se fendit d'un sourire pincé et attendit la chute.
« Arman parle sérieusement, »
dit Ada d'un ton enjoué. Les autres convives restèrent muets. Les oiseaux de nuit ululaient dans la forêt.
Je suis navré, articula Daeman.
Arman secoua la tête.
Il me tarde de vivre l'année qui vient. J'ai quantité de choses à faire. L'année dernière, Arman a parcouru 150 kilomètres dans la brèche atlantique,
lança Anna, la jeune amie d'Ada aux cheveux coupés courts. Cette fois-ci, Daeman était sûr qu'on lui faisait une blague.
« On ne peut pas descendre dans la brèche atlantique. »«
C'est pourtant ce que j'ai fait, »
dit Arman en croquant son épi de maïs.
« Ce n'était qu'une reconnaissance, comme l'a dit Anna. J'ai regagné la côte de l'Amérique du Nord au bout de 150 kilomètres. Mais cela ne m'a présenté aucune difficulté. »
Daeman se fendit d'un nouveau sourire pour montrer qu'il était beau joueur.
« Mais comment as-tu pu arriver à la brèche atlantique, Arman Ur ?» Il n'y a aucune plateforme fax à proximité.
Il ignorait où se trouvait la brèche atlantique, ne savait même pas ce qu'était l'Amérique du Nord, et n'était pas très sûr de la position de l'océan Atlantique. Mais il savait avec certitude qu'aucune des 317 plateformes fax ne se trouvait près de la brèche. Il les avait toutes empruntées plus d'une fois, et jamais il n'avait aperçu la légendaire brèche. Arman reposa son épi de maïs.
En marchant, Daeman Ur. La brèche part de la côte est de l'Amérique du Nord et suit le tracé du 40e parallèle jusqu'à ce continent qu'on appelait l'Europe durant l'ère perdue. Je crois que l'état où la brèche retouche terre s'appelait l'Espagne. Les ruines de l'antique cité de Philadelphie, ou la plateforme 124, ou encore le domaine de Loman Ur, si tu préfères, ne se trouvent qu'à quelques heures de marche de la brèche. Si j'en avais eu le courage, et si j'avais emporté assez de provisions, j'aurais pu aller jusqu'en Espagne.
Daeman hocha la tête en souriant, mais il ne comprenait strictement rien à ce que racontait l'autre. D'abord, cette allusion obscène à sa 99e année. Et maintenant, ces histoires de parallèles, de cités de l'air perdu et de marches à pied. Personne ne faisait plus de 100 mètres à pied. À quoi bon ? Tout ce qu'il y avait d'intéressant en ce monde se trouvait près d'une plateforme fax. Et les quelques exceptions à cette règle, le château d'Ardis où vivait Ada par exemple, pouvaient être atteintes par cabriolet ou droski. Daeman connaissait bien Loman, naturellement. Il avait récemment fêté les 320 d'Ono dans son vaste domaine. Mais le reste du discours d'Arman tenait du délire. De toute évidence, le malheureux avait sombré dans la démence. Enfin, le dernier fax, l'infirmerie et l'ascension régleraient le problème. Daeman se tourna vers Ada, espérant qu'en tant qu'hôtesse, elle allait intervenir pour changer de sujet. Mais Ada souriait comme si elle approuvait tous les propos d'Arman. Daeman chercha de l'aide du regard, mais tous les autres convives écoutaient poliment, et même avec un certain intérêt, comme si ce genre d'élucubration faisait partie de l'ordinaire de leur soirée provinciale. « Cette truite est excellente, n'est-ce pas ? » dit-il à la femme assise à sa gauche. « La tienne t'a plu ?» Une femme assise en face de lui, une rouquine corpulente qui ne tarderait pas à fêter ses 3 vins, posa sur son petit poing le plus proéminent de ses mentons et demanda à Arman
« Comment c'était ? Dans la brèche, je veux dire ?»
L'homme, aux cheveux bouclés et au teint basané, commença par résister, mais d'autres personnes insistèrent, y compris la jeune femme blonde à qui Daeman avait demandé comment était sa truite et qu'il avait grossièrement ignorée. Finalement, il se laissa convaincre, se fendant d'un geste de la main plutôt gracieux.
« Si vous n'avez jamais vu la brèche, sachez que c'est déjà un spectacle fascinant depuis le rivage. Elle fait environ 80 mètres de large, une entaille filant vers l'est à perte de vue, devenant de plus en plus étroite à mesure qu'elle se rapproche de l'horizon, jusqu'à se réduire à une esquille de lumière là où l'océan se fond dans le ciel. Quand tu y entres, tu te sens un peu étrange. Là où s'achève la brèche, le sable de la plage n'est pas mouillé. Aucune vague ne s'y brise. D'abord, tu n'as Dieu que pour l'une ou l'autre des 2 parois. L'eau t'arrive soudain à la taille et tu découvres des plaques d'eau pareil à des vitres te séparant des courants des marées. Alors, tu les touches, impossible de résister à la tentation. C'est une surface spongieuse, invisible, qui cède à peine sous la pression de tes doigts, qui est rafraîchie par l'eau qu'elle contient, mais demeure impénétrable. Tu t'avances sur le sable sec. Au fil des siècles, le fond marin n'a été mouillé que par la pluie, de sorte que le sable et la terre sont solides, que les algues et les animaux sont ici desséchés, au point d'en paraître quasiment fossilisés. Au bout d'une 12aine de mètres, ces parois liquides sont plus hautes que ta tête. On y voit des ombres se mouvoir, des petits poissons qui passent près de la barrière entre air et mer, puis c'est un requin qui passe, et ensuite des masses pâles et amorphes que tu n'arrives pas à identifier. Parfois, ces créatures marines s'approchent de la barrière, la touche de leur tête glacée, puis s'en détourne vivement comme affolée. Au bout d'un ou 2 kilomètres, la surface de l'eau est si élevée au-dessus de ta tête que le ciel s'assombrit. Au bout de 20 kilomètres, les murailles d'eau se dressent à une hauteur de 300 mètres. Même en plein jour, tu aperçois les étoiles dans la tranche de ciel au-dessus de toi. « Non !» fit un homme mince aux cheveux châtains assis en bout de table. Daeman se rappela son nom, Loès. « Tu plaisantes ?»« Pas le moins du monde, » répondit Arman avec un nouveau sourire. « J'ai marché 4 jours durant. Je dormais pendant la nuit. J'ai fait demi-tour quand je me suis trouvé à court de nourriture. « Comment distinguais-tu le jour de la nuit ?» demanda la jeune femme athlétique nommée Anna. « Quand il fait jour, le ciel est noir et les étoiles sont visibles, » répondit Arman. Mais l'océan de part et d'autre de la brèche passe par toutes les nuances de bleu, de l'azur au sommet au bleu nuit à la base. « Tu as trouvé quelque chose d'extraordinaire ?» s'enquit Ada. « Quelques navires engloutis, antiques, datant de l'ère perdue et d'avant, plus un qui semblait plus récent. » Nouveau sourire. « J'ai exploré l'un d'eux, une gigantesque carcasse rouillée émergeant de la paroi nord de la brèche, penché sur le côté. Je suis entré par un trou de la coque. J'ai grimpé quelques échelles. J'ai foulé des planchers inclinés en m'éclairant de ma petite lanterne. Et soudain, dans un vaste espace, on appelait ça la cale, je crois, je suis tombé sur la barrière. Une muraille d'eau, du sol au plafond, grouillante de poissons. J'ai plaqué mon visage sur cette paroi froide et invisible, découvrant des bernacles, des mollusques, des serpents de mer et autres formes de vie peuplant la moindre surface, se nourrissant les unes des autres, tandis que de mon côté, ce n'était que rouille et poussière, avec comme seul être vivant mon humble personne et un petit crabe de terre blanc qui, tout comme moi, était venu de la côte. Le vent se leva, faisant frémir le feuillage de l'orme. Les lampions vacillèrent, et leur riche lumière joua avec la soie et le coton des vêtements, avec les coiffures, les mains et les visages autour de la table. Tous étaient captivés. Daeman lui-même sentait son intérêt s'éveiller, en dépit de l'absurdité foncière de ce récit. Les torches placées le long des allées frissonnèrent et crépitèrent sous la caresse du vent.
« Et les Voynix ?»
demanda une femme assise à côté de Loès. Daeman ne se rappelait pas son nom. Aimé, peut-être.
« Sont-ils plus ou moins nombreux que sur Terre ? S'agit-il de simples sentinelles ou bien sont-ils mobiles ?»«
Il n'y a pas de Voynix. » Tous semblèrent retenir leur souffle. Daeman se sentait aussi choqué que lorsque Arman avait révélé son âge. Un vertige le prit. Ce vin était peut-être plus fort qu'il ne l'aurait cru.
« Pas de Voynix ?»
répéta Ada sur un ton qui exprimait l'envie plutôt que l'émerveillement. Elle leva son verre de vin.
« Portons un toast !» déclara-t-elle.
Les serviteurs se rapprochèrent pour remplir les verres. Chacun des convives leva le sien. Daeman s'ébroua discrètement pour reprendre sa contenance et se força à arborer un sourire affable. Ada ne formula aucun vœu, mais tous, même Daeman au bout d'un temps, burent leur vin comme si elle l'avait fait. Lorsque vint la fin du repas, le vent se levait, les nuages occultaient les anneaux E et P, l'air sentait l'ozone et la pluie tombait à verse sur les collines noires à l'ouest, si bien que les convives s'abritèrent dans le château, où ils se séparèrent, groupes et couples gagnant leurs chambres ou diverses salles de loisirs réparties dans les ailes de l'édifice. Les serviteurs fournissaient la musique de chambre dans la serre côté sud, la piscine couverte située à l'arrière du château attirait un peu de monde, et on avait préparé un buffet sur le balcon incurvé du premier étage. Certains couples se retirèrent dans leur chambre pour y faire l'amour, d'autres se trouvèrent un coin tranquille pour y déplier leur turin et se rendre à trois. Daeman suivit Ada, qui conduisait Anna et le dénommé Arman à la bibliothèque du deuxième étage. S'il voulait arriver assez fin et séduire Ada avant la fin du week-end, il devait passer tout son temps libre auprès d'elle. La séduction, il le savait, tenait de la science et de l'art, un subtil mélange de talent, de discipline, de chance et de proximité. Surtout de proximité. Marchant à ses côtés, Daeman sentait la chaleur de sa peau à travers la soie beige et noire de ses vêtements. Sa lèvre inférieure, remarqua-t-il, comme il l'avait fait 10 ans auparavant, était pleine, rouge à damner, faite pour être mordue. Lorsqu'elle leva le bras pour faire apprécier la hauteur des étagères à Arman et à Anna, Daeman savoura le subtil et doux mouvement de son sein droit sous le fin fourreau de soie. Il avait déjà vu des bibliothèques, mais jamais d'aussi vastes que celle-ci. Elle devait faire plus de 30 mètres de long et 15 de haut, avec une galerie courant le long de 3 de ses murs et des échelles coulissantes sur 2 niveaux, permettant d'accéder aux volumes les plus élevés et les moins accessibles. On y trouvait aussi des alcôves, des niches, des tables couvertes de grands livres ouverts, des divans et des fauteuils çà et là, et même des étagères de livres fixées au-dessus de la grande baie vitrée. Daeman savait que les livres entreposés ici étaient préservés de la décomposition grâce à des produits nanochimiques appliqués des siècles, voire des millénaires plus tôt. Ces artefacts futiles étaient faits de cuir, de papier et d'encre, bon sang. Mais la pièce lambrisée d'acajou avec ses flaques de lumière, le cuir antique de ses meubles et ses murs chargés de livres, apportait néanmoins à ses narines sensibles un parfum d'âge et de pourriture. Il ne voyait vraiment pas pourquoi Ada et les membres de sa famille conservaient ce mausolée au château d'Ardis, ni pourquoi Arman et Anna tenaient à le visiter ce soir. L'homme aux cheveux bouclés qui prétendait vivre sa dernière année et avoir marché dans la brèche atlantique fit halte, frappé d'émerveillement.
« C'est fabuleux, Ada. »
Il grimpa une échelle, la fit glisser le long des rayonnages et tendit la main pour toucher un épais volume relié de cuir. Daeman s'esclaffa.
Tu crois que la fonction lecture est revenue, Arman Ur ?
L'autre sourit, mais il affichait une telle assurance que, l'espace d'une seconde, Daeman s'attendit à voir son bras se couvrir de symboles dorés correspondant au contenu du livre. Daeman n'avait jamais vu opérer cette fonction perdue, bien entendu, mais il l'avait entendu décrire par sa grand-mère, ainsi que par d'autres anciens évoquant les plaisirs de leurs arrière-arrière-grands-parents. Aucun mot n'apparut. Daeman retira sa main.
Aimerais-tu posséder la fonction lecture, Daeman Ur?
Daeman s'entendit rire une nouvelle fois en cette étrange soirée, et il avait une conscience aiguë du regard que lui accordaient les deux jeunes femmes, un regard partagé entre l'étonnement et la curiosité.
« Non, bien sûr que non, » répondit-il. « Pourquoi le souhaiterais-je? Que pourraient m'apprendre ces vieux machins qui aient un rapport quelconque avec notre vie aujourd'hui ?»
Arman gravit quelques barreaux sur l'échelle.
« Tu n'aimerais pas savoir pourquoi les post-humains ne se montrent plus sur Terre et où ils sont passés ?»«
Quelle question! Ils ont regagné leur cité dans les anneaux, tout le monde sait cela !»«
Mais pourquoi ?» insista Arman. « Pourquoi sont-ils partis après avoir passé des millénaires à veiller sur nous et à régler nos affaires ?»«
Ridicule !»
fit Daeman peut-être un peu plus sèchement qu'il ne l'aurait voulu.
« Les postes continuent de veiller sur nous, depuis là-haut !»
Arman acquiesça comme s'il venait d'apprendre quelque chose et fit glisser son échelle de quelques mètres sur la main courante en cuivre. Sa tête touchait presque le dessous de la galerie.
« Et les Voynix ?»«
Pardon ?»«
Tu ne t'es jamais demandé pourquoi ils étaient aussi actifs aujourd'hui après avoir passé tant de siècles sans bouger ?»
Daeman ouvrit la bouche, mais il n'avait rien à répondre à cela. Au bout d'un temps, il déclara
« Cette histoire selon laquelle les Voynix ne bougeaient pas avant le dernier fax est ridicule. Elle relève du mythe, du folklore. »
Ada s'approcha de lui.
« Daeman, tu ne t'es jamais demandé d'où ils venaient ?»«
Qui donc, ma chère ?»«
Les Voynix ?»
Daeman s'esclaffa de bon cœur.
« Bien sûr que non, ma chère. Les Voynix ont toujours été là. Ils sont permanents, fixes, éternels. Il leur arrive de disparaître, mais ils sont toujours présents. Comme le soleil et les étoiles. »«
Ou les anneaux ?»
demanda Anna d'une voix douce.
« Précisément !»
dit Daeman, ravi de voir qu'elle l'avait compris. Arman attrapa un gros livre sur une étagère.
« Daeman Ur. » Adam apprend que tu es un lépidoptériste éminent.
Pardon?
Un expert en papillons.
Daeman se sentit rougir. Il est toujours agréable de voir ses talents salués, même si c'est par un inconnu, et pas tout à fait sain d'esprit en plus.
Je ne prétends pas être un expert, Daeman Ur. Simplement un collectionneur qui a beaucoup appris de son oncle.
Arman descendit de son échelle et alla poser le livre sur une table de lecture.
« Ceci devrait t'intéresser. »
Il ouvrit l'artefact. Page après page, on y découvrait de splendides représentations de papillons. Daeman s'approcha, muet d'étonnement. Son oncle lui avait enseigné les noms de 20 types de papillons, et il avait appris, grâce à d'autres collectionneurs, à identifier quelques-unes des espèces qu'il avait capturées. Il posa son index sur l'image d'un papillon tigré de l'Ouest.
« Papillon tigré de l'Ouest », déclara Arman, qui ajouta « Papilio rutulus ».
Daeman ignorait le sens de ces deux derniers mots, mais il fixa son aîné d'un air stupéfait.
« Tu es aussi un collectionneur ?»«
Pas du tout. »
Arman toucha l'image d'un papillon noir et or bien connu.
« Monarque. »
« Oui, »
fit Daeman déconcerté.
« Vulcain, Arginaphrodite, Physiodes campestris, Argus bleu, Belle dame, Petit Apollon. »
récita Arman passant d'une image à l'autre. Daeman connaissait trois noms dans cette liste.
« Tu connais les papillons ?»
insista-t-il. Harman fit non de la tête.
Je découvre à l'instant que chaque type a un nom différent.
Daeman considéra sa main nue.
Tu as la fonction lecture, alors?
Nouvelle dénégation d'Harman.
Personne ne dispose plus de cette fonction paume.
Pas plus que des fonctions comme géoposition, accès aux données ou autofax. Alors...
Mais Daeman était trop désemparé pour poursuivre. Se moquait-on de lui pour une raison qui lui échappait? Il était venu passer un week-end au château d'Ardis avec les meilleures intentions, enfin avec l'intention de séduire Ada, mais cela n'avait rien de méchant, et voilà qu'on le tourmentait avec ce petit jeu. Comme si elle avait perçu sa colère, Ada posa sur sa manche des doigts longilignes.
« Harman n'est pas équipé de la fonction lecture, Daeman Ur, » dit-elle à voix basse. « Il a récemment appris à lire. »
Daeman la fixa sans rien dire. C'était aussi insensé que de célébrer son 99e anniversaire ou de décrire le fond de la brèche atlantique.
« C'est un talent, » expliqua doucement Harman, « comme celui qui te permet de connaître les noms de papillons ou d'être doué dans l'art de... plaire aux dames ?»
Daeman tiqua en entendant ces mots. « Tout le monde connaît donc mon autre hobby ?»«
Harman a promis de nous apprendre à lire, » intervint Anna. « Cela pourrait m'être utile. Je dois en apprendre davantage sur le moulage avant d'aller plus loin. Sinon, je risque de me brûler. »
Le moulage? Daeman mangeait souvent des moules, mais il ne voyait aucun rapport entre ce fruit de mer, la fonction lecture et le risque de brûlure. Il s'humecta les lèvres et dit
« Ces petits jeux ne m'intéressent pas. Que voulez-vous de moi ?»«
Nous devons trouver un vaisseau spatial, » dit Ada. « Et nous avons des raisons de croire que tu peux nous y aider. »